Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
Coupé. Très bien. C'est... Jean-Marie ?
Oui.
Voilà, merci.
Donc on change de... On change de position sur la caméra B.
C'était... je sais pas, il y avait une sorte d'évidence. Moi, on est arrivé ici le premier jour... Ça a été très il y avait une pudeur, c'était incroyable, c'est que on s'est tous retrouvés naturellement et facilement. Tu vois, c'est vrai, il n'y a pas eu de grande embrassade. Ah super, on se retrouve. Non, c'était facile. On y retournait quoi. Et c'était évident. Il y avait une évidence quoi. Voilà, ça a été aussi simple que ça.
Allez les amis, il faudrait avoir terminé ça. Et on a encore deux plans derrière. Allons-y. Et action.
Je voulais te parler de quelque chose, au sujet de Ninon.
Je sais plus quoi faire.
Parle-lui.
Elle ne m'écoute pas. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve carrément impuissant à aider, à protéger ma fille.
Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Hein. Je serai toujours là pour toi.
Que ce soit sur les imposants plateaux des studios de la Belle de Mai, à quelques rues de la gare de Marseille-Saint-Charles, ou dans les appartements loués dans la ville pour créer les intérieurs des personnages, on sent effectivement une sorte de tranquillité, de simplicité, à l'image de ce que décrivait à l'instant le comédien Stéphane Hénon, qui incarne dans la série le personnage de Jean-Paul Bauer depuis 2007. Ceci étant dit, tout le monde est bien conscient de l'enjeu de taille que représente la relance de Plus belle la vie, qu'il a fallu, au passage, réinventer, en affrontant aussi des problèmes ou des drames inattendus. C'est ce qu'on va voir dans ce second épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B.
C'est agréable de retrouver le plaisir de danser.
C'est surtout agréable d'être dans les bras d'un homme toute une soirée.
Anne, je suis bien avec toi. Comme si on avait 18 ans.
Mais on a 18 ans.
C'est une série qui est vieille, qui est super, mais il faut, quitte à s'interrompre, il faut recommencer sur une page blanche la manière d'organiser.
Clémentine Planchon, productrice.
Malgré tout, attention, c'est pas du tout ce qui était avant, c'était pas bien, il faut pas le refaire. Mmh. On a gardé plein de choses dont on était fiers et qu'on savait bien faire. C'est aussi Plus belle la vie qui finalement a donné les outils aux autres séries derrière. Mmh. Les gens qui ont créé les autres séries quotidiennes, je trouve à peu près tous passés un moment de leur vie sur Plus belle la vie. Mmh. C'est Plus belle qui a instauré un système de fabrication tel qu'il est. Après, c'est plutôt qu'on a pris ce qui marchait bien et on a essayé de modifier ce qui marchait moins bien parce que voilà, il y avait des complexités qui étaient celles d'avant et qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. Alors on en a d'autres, hein, mais voilà, ça nous a permis quand même de balayer un peu tout ça, de s'aérer et de se renouveler. L'idée, c'était pas qu'on revienne tous avec nos petits cartables, se remettre dans le même bureau, à la même place et on recommence. Non, justement, c'est une adaptation, on repart, donc on change beaucoup de choses. Donc c'est l'organisation des équipes, la manière de travailler. Un des enjeux qu'on avait, c'est qu'entre-temps, dans ces 18 années, sont arrivées quand même trois autres séries quotidiennes qui sont qualitatives en termes de rendu d'image et on pouvait plus avoir de Plus belle la vie à la traîne. Ça, c'était impossible. Donc il fallait qu'on travaille vraiment la valeur ajoutée de notre image. Donc, c'est passé par des décors qui sont crédibles, dont on peut se dire, si ça se trouve, c'est un décor naturel, c'est ça l'enjeu d'un décor en studio. Et ça passe aussi par l'image, on a changé les caméras, on a eu une chance inouïe d'avoir les caméras qu'on a aujourd'hui et dont on est vraiment très très satisfait. On a éclairé davantage en LED, donc ça c'est aussi évolué avec son temps et a modernisé notre rendu technique. Et ça se voit à l'image aujourd'hui, on est très satisfait de ça. Et c'est passé jusqu'à même repeindre les bureaux, changer la petite déco des bureaux pour aussi donner cette sensation aux équipes quand elles viennent, ceux qui étaient déjà là, qui ne sont pas exactement au même endroit. Il nous fallait un peu de fraîcheur. Ça participe à confirmer que c'est bien une adaptation, une nouvelle série qui s'écrit.
J'ai été chargée d'abord d'écrire une nouvelle Bible.
Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série.
Puisque même si on va chercher Plus belle la vie, on crée une nouvelle série pour TF1. C'était un enjeu important pour la chaîne. Alors une Bible, ça porte bien son nom. C'est la genèse de l'univers. C'est-à-dire qui sont les personnages, d'où ils viennent, quel va être leur destin, les décors, les arches principales, le ton général, la durée des épisodes, etc. Puis maintenant, je supervise l'atelier Arche, je supervise l'atelier séquencier, et je fais le lien avec l'atelier dialogue. Donc je suis à la fois sur la programmation des arches A, des arches B, sur la gestion de l'équipe, parce qu'il fallait à la fois garder un esprit, une couleur, parce qu'il y a des fans qui attendent cette série, et à la fois créer une nouvelle série, parce qu'il était hors de question d'exclure des nouveaux téléspectateurs qui allaient découvrir sur une autre chaîne cette nouvelle série. Pour eux. Donc il y a eu un exercice un petit peu d'équilibriste et de recréation. Vraiment, on a créé c'est assez curieux, on a créé une nouvelle série qui a le goût de Plus belle la vie, mais qui n'est pas tout à fait Plus belle la vie, qui est Plus belle la vie encore plus belle. Donc des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Le plus important aussi, c'est qu'on avait perdu tous les décors qui avaient été détruits. Donc ça c'est pareil, c'était une forte identité de la série, donc il faut passer au-dessus et réinventer un quartier et de nouveaux liens.
Alors, on a augmenté un peu la part d'extérieur. Et c'est surtout l'arène principale qui est donc la place où se trouve le café, le cabinet médical, le commissariat. Cette place est en extérieur, alors que la place Mistral des 18 premières saisons était en studio. Donc ça a évidemment augmenté beaucoup la part d'extérieur. L'autre chose qui est différente, c'est qu'on a beaucoup travaillé la lumière de studio, de manière un peu différente. On est allé dans des hautes lumières plus fortes, qui fait que les décors en studio font beaucoup moins studio, en fait.
La réalisatrice Claire de la Rochefoucauld a eu plusieurs casquettes dans le lancement de Plus belle la vie, encore plus belle. Arrivée sur la série originelle en 2009, c'est elle qui a été choisie comme référente pour relancer la machine avant de retrouver sa casquette de metteuse en scène.
Je suis arrivée 2 mois et demi avant. J'ai beaucoup travaillé avec la production, avec la déco, avec les costumes, avec j'ai fait une note de réalisation avec la productrice. On a rédigé ensemble une note de réalisation pour donner un peu la ligne globale aux autres réalisateurs. Mais en aucun cas, maintenant mon rôle est terminé. Et les nouveaux réalisateurs qui arrivent, en fait, ils passent au montage, ils voient des images, on leur envoie des épisodes, puisque l'idée, évidemment, qu'il y ait une continuité, mais chaque réalisateur est suffisamment aguerri pour coller à ce qu'ont fait les autres et pour rentrer dans les clous de la série, on va dire. Bien sûr, chacun va pouvoir glisser sa patte, sa spécificité, que ce soit au niveau de la direction d'acteur, que ce soit chacun a une manière de travailler un peu propre, mais évidemment, il faut que l'ensemble soit homogène. On se connaît tous, il y a une très bonne entente. Là, les réalisateurs qui sont en prépa passent me voir sur le plateau. Moi, quand j'étais en prépa, j'allais voir ceux qui tournaient. On échange, on s'envoie des mails, on se donne des petites directives aussi sur les comédiens. Attention, lui fait plus attention à ça, lui fait plus attention à ça. On se donne des conseils, des conseils. On échange, bien sûr. C'est l'idée quand même.
C'est pour l'entendre, t'es pas dessus Loïc. T'as pas mis la valeur. 192 sur la C, tu ne l'as pas.
Il y a à peu près 150 personnes qui travaillent par jour.
Clémentine Planchon, productrice.
Ça inclut des auteurs, des comédiens, des gens qui travaillent dans les bureaux, qui font le lien entre toutes les équipes, la coordination, mais la coordination, ça va de la logistique à l'administration, à l'écriture, à l'artistique et au planning, en gros, et à la com, bien sûr.
Ouais, voilà, merci. Quand vous voulez.
On peut. Alors, le silence partout.
Merci.
Et on a ensuite les gens des équipes de tournage. Et là, les corps de métier, c'est il y a le réalisateur, son équipe de mise en scène, l'équipe image, donc chef op, cadreur, steadicammer, assistant vidéo, l'équipe son, l'équipe accessoire, l'équipe HMC, habillage, maquillage, coiffure, c'est ce qu'on appelle l'habillage, l'équipe beauté, hein, donc c'est eux qui habillent, maquillent, coiffent les comédiens. Et la régie, élément phare qui s'occupe de toute la logistique, l'intendance, les autorisations de tournage et toute la déco qui est à la fois tournage et amont du tournage, puisqu'ils anticipent, eux, les demandes pour préparer nos décors.
On a du mal à imaginer qu'il existe des coins de paradis comme ça.
C'est vraiment un fonctionnement d'artisan.
Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série.
L'écriture, même si c'est une énorme machine industrielle, à tous les postes, que ce soit à l'écriture ou sur le plateau, eh ben, ce sont des petits ateliers d'artisans qui travaillent en coordination. Mais c'est vraiment de l'artisanat, parce que les épisodes ne se ressemblent pas, les intrigues ne se ressemblent pas, il faut bien connaître les personnages, il faut bien connaître les décors, il faut vraiment être dans ce petit univers. Mais chaque jour, ben, on est surpris, on doit créer différemment, on doit se réinventer. Et ça marche parce qu'on a autour de la table des personnalités différentes qui travaillent ensemble, qui confrontent leurs points de vue, leurs opinions. C'est parfois un petit peu animé. Et ensuite, ben, on a les dialoguistes qui vont mettre en parole nos séquences. Et là, c'est pareil. Ce sont des artisans qui connaissent bien les personnages, qui ont un vrai sens du rythme, qui vont aller chercher encore, travailler l'émotion pour que ce soit juste. Et on se parle beaucoup, tous, pour aboutir au meilleur épisode possible.
Il y a trois étapes d'écriture sur une série. Il y a l'écriture.
Claire de la Rochefoucauld, réalisatrice.
C'est les scénaristes, les dialoguistes. Il y a la mise en scène, qui est la partie dont moi je m'occupe. Enfin, moi, on est 15 réalisateurs. Hein. Et ensuite, il y a la troisième volet d'écriture, qui est le montage. Le montage, c'est vraiment... L'édito est très retravaillé au montage, puisqu'on peut inverser des séquences, on peut faire plein de choses. Puis maintenant, avec les effets spéciaux, avec les trucages, avec c'est une partie très très importante. Alors moi, en ce qui concerne mon côté réel, nous, on vient faire, par exemple, moi, là, je suis venue faire le studio, l'équivalent des séquences de studio de 10 épisodes. Donc pour ça, j'ai eu 8 jours de préparation. Donc il y a d'abord un travail de bureau où on a des réunions avec la déco, avec les accessoires, avec l'écriture, avec la productrice qui nous donne un peu aussi ce qui l'importe le plus. Donc ça, on a 8 jours de préparation. Ensuite, on a 9 jours de tournage. Et puis après, on livre nos images évidemment dans une partie très très importante de la fabrication qui est la post-production. Je pense qu'il va y avoir une esthétique plus belle la vie. C'est réalisé en tournage, mais elle n'a pas été encore diffusée. Mais je pense que les gens vont être étonnés quand ça va être diffusé. Ça vient beaucoup des nouvelles caméras. Je crois qu'on a une des premières séries à tourner avec ces caméras Arri qui ont un grain, qui font un peu moins vidéo. On peut travailler sur plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Mais ça va vraiment amener une nouvelle image. Et oui, je pense qu'il va y avoir une esthétique plus belle la vie. En tout cas, on fait tout pour.
Si l'image, la lumière, les décors changent pas mal la donne, les fans de l'ancienne version ne seront pas totalement perdus, puisqu'ils retrouveront pas mal de situations et de visages connus. Mais il y a un visage, malheureusement, qui n'en fera pas partie. C'est celui de Marwan Bereni. Le comédien, arrivé sur la série en 2009, devait être un des personnages centraux de la nouvelle version. Mais à l'été 2023, son destin a basculé. Au mois d'août, on le soupçonne d'être impliqué dans un grave accident de la route. La gendarmerie le recherche. Il est introuvable. Sa famille appelle à l'aide, fait publier des lettres dans la presse l'invitant à donner signe de vie. Hélas, son corps est finalement retrouvé à la mi-octobre. Il aurait visiblement mis fin à ses jours. Le choc est grand chez ses proches, chez les spectateurs et dans les équipes de Plus belle la vie.
Oui, ça a été épouvantable.
Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série.
Au-delà de l'émotion de perdre quelqu'un d'aussi formidable, si jeune et dans des circonstances aussi sombres, ça a pas mal bousculé parce que Marwan interprétait Abdel, un personnage extrêmement important. Donc il a fallu rejouer les cartes parce qu'il était avec Barbara, personnage aussi emblématique. Il venait d'avoir un enfant dans la série, donc oui, on s'est beaucoup posé la question de comment on allait faire pour de respecter ce personnage, hein, parce qu'on peut pas juste le faire sortir comme ça et puis on oublie. C'est même pas respectueux pour Marwan, en fait, parce qu'il a beaucoup donné à la série. Il faisait partie de la famille Plus belle la vie, mais au-delà, je crois qu'il est vraiment entré dans des familles françaises. Voilà, il fait partie du... c'est un meilleur ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qu'on aime, qui accompagne. Donc oui, c'est plus qu'un personnage.
Dans les bureaux de la production à Marseille, au-dessus d'un tableau blanc rempli d'infos sur les nouveaux tournages, une photo de Marwan Berenyi souriant est accrochée. L'acteur est forcément dans un petit coin de l'esprit des uns et des autres, même sans doute de celles et ceux qui ne l'ont pas croisé, les nouveaux comédiens qui viennent de rejoindre la série et qui ont été accueillis par les vétérans, dont Jérôme Bertin et Stéphane Hénon.
Ça renouvelle. Je veux dire, on va avoir
une fraîcheur.
C'est,
quoi.
Voilà, juste, c'est des nouvelles aventures avec des nouveaux personnages avec qui ça s'est tout de suite très bien passé. Et d'ailleurs, la plupart nous ont dit, c'est incroyable d'être accueillis comme on l'est. Et ça, je pense que c'est aussi une des traditions de Plus belle la vie. C'est, oui, voilà, la bienveillance. Plus belle la vie, c'est vraiment la bienveillance sur cette série. Tous les gens qui arrivent sont toujours très étonnés, en fait, de la façon dont ils sont reçus.
Oui, parce que Plus belle la vie, ça parle du vivre ensemble. Et c'est pas juste pour en parler. Nous, on le vit vraiment. Donc, quand il y a des gens qui arrivent, et on fait en sorte qu'ils se sentent aussi bien que nous, on sent.
Que donc, c'est beau quand même, on est sympa. Il faut venir à Plus belle, hein. Franchement, on est sympa. Ouais.
On a créé pas mal de personnages vintenaires.
Mariam Hamida, scénariste, directrice de collection de la série.
Ça nous intéressait beaucoup d'avoir de jeunes étudiants et de jeunes travailleurs parce qu'ils représentent des personnages qu'on n'a pas beaucoup explorés, pas beaucoup exploités. Et j'aime assez l'idée d'aller chercher des sujets autour de ces jeunes étudiants dont on a beaucoup parlé et qui traversent pas mal de difficultés, de ces jeunes travailleurs qui regardent le travail, l'avenir, très différemment d'il y a 20 ans. Donc c'est un nouveau regard, une nouvelle dynamique. Donc on a pas mal de personnages comme ça qui vont venir régénérer un peu nos plus anciens personnages. Et puis on a des surprises que vous découvrirez en regardant la série.
Alors ça, c'est quelque chose qui va continuer. Oui, bien sûr, on va essayer au maximum de coller à l'actualité, comme c'était le cas avant.
Claire de La Rochefoucauld, réalisatrice.
On a envie que cette série soit en même temps un petit moment de cocooning, de bonheur, de moments où les gens se réconfortent en entendant parler d'eux, mais de manière réconfortante. Je dirais que réconfortant, c'est un peu ce qui nous anime.
On veut continuer à traiter les sujets de société. C'est pas toujours qu'on le fait en fait en amont du vrai sujet de société. C'est que parfois, Plus belle la vie osait davantage.
Clémentine Planchon, productrice.
En parler quand c'est encore le mariage homosexuel venait d'être voté, même si c'était acté au début, les fictions en tout cas ne s'y lançaient pas vraiment. Le transgenre, c'est pareil, mais même pour nous, le transgenre, ça n'a pas été si simple à l'époque de le faire entrer dans la série, parce qu'il faut trouver aussi des manières de le raconter. Donc évidemment, on a envie et on souhaite vraiment continuer à faire ça. Après, à nous de trouver aussi les histoires qui permettent de le raconter. Mais je pense qu'il y a une vraie demande aussi de la part de TF1, parce que c'est moins... Maintenant qu'ils ont 3 séries quotidiennes, c'est important qu'elles se démarquent les unes des autres. Et ça peut être aussi un point sur lequel on va essayer de continuer à se démarquer.
On a toujours à la fois des purs sujets de société, puis des sujets comme ça qui traversent de toute façon toutes les époques.
Claire de La Rochefoucauld, réalisatrice.
On a envie d'aller beaucoup vers des sujets sur les femmes. On va parler de la charge mentale, on va parler du consentement, on va parler de sujets qui sont dans l'air du temps, dans toutes les générations. C'est le sel parce que ça permet justement de discuter, de créer... dans la discussion, on a qui sont d'accord, pas d'accord. On essaye d'être assez équilibrés dans les points de vue. Mais on va continuer de venir gratter un peu les sujets de société sans restriction, c'est notre identité.
Tu peux m'incruster ? Ouais, vas-y. T'as pas l'air d'aller, toi.
Bah, bof, moyen.
Faut dire, on a mal commencé la journée.
Ouais, carrément.
Bon, bah... on va pas se laisser abattre.
C'est une série qui va être en plus diffusée en journée à une heure où on a fini de manger et peut-être on prend un petit café, on est tranquille et on a envie d'avoir quelque chose qui nous détend.
Clémentine Planchon, productrice.
Quelque chose de feel good, positif, proche, on va être dans la proximité. Donc ça passe par c'est raconter la vie tous les jours, mais évidemment en y mettant du mystère, de l'attention, des révélations, parce que c'est ça aussi une quotidienne. On a du polar, ça va pas changer, on va pas essayer de pas mettre un mort tous les trois jours. C'est je trouve que d'autres le font très bien et nous voilà, on va essayer de rester dans une touche très proximité, douceur et feel good.
Plus belle la vie, c'est une série chorale. On ne réussira que si on est en équipe. Donc si on commence à tirer la couverture à soi, ça ne va pas marcher.
Oui, parce que la star, en fait, c'est Plus belle la vie.
Jérôme Bertin et Stéphane Hénon, comédiens.
Mmh. C'est la série, ce n'est pas les comédiens. C'est un ensemble, en fait. C'est un peu, en fait, la réussite de Plus belle, c'est ça, surtout, je pense. C'est qu'il n'y a pas de gens qui sortent vraiment, tu vois, parce qu'on a tous, à un moment donné, on sort un peu plus parce que, voilà, on a une arche ouais. A et tout. Mais tout le monde est un peu à égalité, quoi. Voilà. Mmh. Et je pense que la vraie star de la série, bah, c'est la série.
Oui, c'est une adaptation, c'est pas la suite de Plus belle la vie. Oui. On a beaucoup de nouveaux personnages qui arrivent, qui vont donner plein d'énergie nouvelle, de sang neuf et tout ça. On va avoir des intrigues complètement nouvelles, justement, liées à ça. Et donc, puis je pense aussi que les gens, ils ont beaucoup envie, dans cette période qui est compliquée pour tous les Français, de se sentir bien. Et je crois qu'il y a pas mal d'intrigues qui vont faire que les gens vont se sentir bien en regardant Plus belle la vie, encore plus belle.
C'est beau ce que tu dis. Ça devrait être le titre, ça. Plus belle ouais. La vie, encore plus belle.
Bah, je vais le soumettre à TF1.
Soumettre ça à TF1. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, c'est une bonne idée.
Merci aux équipes de Néwen Studio et de Plus belle la vie, encore plus belle pour leur accueil chaleureux. Merci à Claire de la Rochefoucauld, Clémentine Planchon, Mariem Hamida, Stéphane Hénon et Jérôme Bertin pour leur temps et leurs réponses. Merci tout particulièrement à Élise Florio et Gersande Faccini-Caranoni qui ont grandement facilité le tournage de ces deux épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.